Soyez les bienvenus sur BFM Radio. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé. Le talk show radio sur BFM, la radio des deux rives.
Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Beauvais, près d'Agen. Zone La Motte Maniac et sur réal-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise.
Chut, on écoute la télé avec les confitures cuites au chaudron par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.
Et merci de nous rejoindre pour Chut, on écoute la télé, l'hebdo sur VFM Radio, des équipes de films, des comédiens, des chanteurs et bien d'autres pour cette heure que l'on démarre ensemble maintenant. Alors c'est parti pour le sommaire.
Chut, on écoute la télé,
le talk show radio.
Et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro inédit de Chut, on écoute la télé avec une lâche partie de cette émission consacrée à la réouverture des cinémas un peu partout en France. Nous allons parler dans un tout petit instant avec Patrice Martin, le responsable programmation des cinémas CGR en France. Et puis nous aurons le plaisir de vous repasser un extrait de la venue de Franck Dubosc pour le film 10 jours sans maman. Il était venu pour la sortie en salle et le film ressort aujourd'hui, ça tombe bien. Et puis coup de cœur ciné aujourd'hui consacré au film Fille de Joie de Frédéric Fontaine et Anne Policevitch. Anne Policevitch sera notre invitée accompagnée d'Annabelle Langron qui joue également dans le film. Et puis nos coups de cœur télé aujourd'hui avec Tonya Kissinger qui joue le rôle de Janet dans la série Ainsi Grand Soleil. Elle viendra tout nous dire bien évidemment sur son rôle. Lucie Carriès, la réalisatrice du très beau documentaire La Folle Aventure de Louis de Funès, sera également notre invitée et ça, eh bien, ça se passera tout à l'heure également. Et puis en fin d'émission, c'est Stéphane Strano, le responsable et président du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, qui viendra nous donner tous les détails de l'édition délocalisée à Paris, qui nous attendra donc en septembre. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer. On va tout de suite démarrer donc notre spécial cinéma. C'est parti.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va démarrer notre spécial cinéma aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, puisqu'on va avoir eh bien le plaisir de vous consacrer cette spéciale cinéma réouverture des salles aujourd'hui même dans toute la France. Et nous avons le programmateur France des cinémas CGR qui est avec nous, Patrice Martin. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est un événement et je crois qu'il plus est attendu par toute la profession, que ce soit les distributeurs et puis bien sûr les exploitants de salles. La production cinématographique a été à l'arrêt depuis maintenant plus de 3 mois.
C'est ça, oui. On est les derniers à ouvrir, en fait, les derniers à être déconfinés.
Exactement, un déconfinement très attendu, j'imagine, puisqu'on avait eu Jocelyn Bruissy, qui est le directeur général, hein, évidemment, du groupe CGR.
Tout à fait.
Il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place pour faire revenir les spectateurs en salle, des opérations spécifiques, des ressorties de films. Il va se passer beaucoup de choses hein, dès aujourd'hui dans les cinémas en France.
Tout à fait. Vous pouvez déjà bénéficier d'un tarif à 5 € en réservant votre place sur notre site internet, donc en VAD, pour essayer de respecter au maximum les nouvelles règles du Covid et donc de préacheter vos places sur internet pour limiter l'attente ou garder les distanciations en caisse.
Justement, dans quelles conditions, Patrice, vont être accueillis les spectateurs en salle aujourd'hui? Quelles sont les mesures que vous avez prises dans vos cinémas?
Alors, les mesures que nous avons prises sont que il y aura du gel à peu près à chaque point d'accès du cinéma, que ce soit dans le hall d'entrée, que ce soit au comptoir confiserie, que ce soit au point d'accueil, que ce soit à l'entrée des salles. En fait, on va laisser à chaque fois une porte sur deux ouverte pour éviter que les gens aient à les ouvrir. On va les nettoyer après chaque séance. Les salles ne seront remplies qu'à 50%. Toutefois, vous pourrez quand même vous asseoir à côté de votre conjoint ou de votre famille. Si vous venez à deux, vous pourrez vous asseoir côte à côte. Si vous venez à trois, vous pourrez être assis pareil côte à côte. Il faudra juste que vous laissiez un fauteuil de libre à gauche et à droite de votre groupe ou de vous.
Alors c'est vraiment un passage compliqué hein, que viennent de vivre tous les exploitants de salles, mais aussi la distribution, les tournages. Il y a beaucoup de films qui se sont trouvés complètement à l'arrêt à quelques jours de leur sortie. Alors certains ont trouvé la parade, comme Forte, qui est parti sur une plateforme, mais beaucoup de films, du coup, ont attendu, ont reporté leur sortie tout simplement. Et donc ressortent aujourd'hui beaucoup de films qui étaient à l'affiche juste avant le confinement. Alors quels sont les plus grands films que l'on va pouvoir revoir en quelque sorte sortent à l'affiche dans les cinémas dès aujourd'hui dans les CGR, Patrice?
Il y a La Bonne Épouse, il y a De Gaulle, il y a Une Sirène à Paris, il y a Radioactive, Invisible Man, on ressort donc aussi en avant L'Appel de la Forêt, Du Cobu, 10 jours sans maman, Papy Sitter, Sonic, on ressort Bad Boys, Birds of Prey, on ressort quand même pas mal de films, The Boy, qui est un film de genre aussi, et nous avons aussi 6 sorties, il y a 6 films qui sortent en nouveauté au 22 avril, donc au lundi. C'est un petit peu exceptionnel, parce qu'habituellement les sorties sont mercredi, et nous avons donc The Hunt, The Demon Inside, Nous les Chiens, Les Filles de Joie, L'Ombre de Staline et Jeunesse Sauvage.
Et oui, Filles de Joie d'ailleurs qui sera notre coup de cœur ciné cette semaine dont on parlera tout à l'heure évidemment. Juste tout à l'heure avant de se quitter justement Patrice pour continuer un petit peu dans cette veine-là sur les films ressortis. On a 10 jours sans maman, on va vous repasser le passage de Franck Dubos qui était venu présenter le film dans Chute on écoute la télé. Ça aussi c'était un événement si vous voulez aller revoir ce film. Comment aujourd'hui justement donner envie aux spectateurs de revenir en salle sans avoir peur? Donc il y a toutes les mesures bien évidemment d'hygiène qui ont été mises en place, et puis il y a bien sûr aussi la sortie des films, des nouveaux films, et puis des gros films qui vont arriver, puisque on aura Tout Simplement Noir qui sera un des événements début juillet, et Divorce Club, le tant attendu film de Michael Youn, le 15.
Le 14, Divorce Club est avancé au 14 juillet.
Ils ont décidé de prendre une journée d'avance. Michael Youn ne fait jamais comme les autres, Marc.
Voilà, c'est un petit peu comme une sortie en avant-première.
Patrice, est-ce qu'on peut espérer revoir des équipes de films dans vos cinémas d'ici l'automne?
Peut-être même en revoir avant. Il y a Antoine de Maximi pour J'irai dormir dans les Carpates qui essaie de venir à La Rochelle pour présenter son film. On a aussi 30 jours max qui sort au mois d'octobre, qui risque de venir fin août, début septembre. Là, en fait, là, tout est en train de se mettre en place. Les plans de sortie sont en train de se mettre à jour. Les distributeurs sont en train de caler leurs films qui n'avaient pas pu sortir parce que les 3 mois d'interruption, c'est l'équivalent de 150 films qui n'ont pas pu sortir au cinéma.
Eh bien, espérons que cette mauvaise passe, en tout cas, est derrière nous. On va retrouver le plaisir, bien évidemment, d'aller revoir des films sur grand écran. Je vous y invite, bien évidemment. Vos cinémas réouvrent aujourd'hui dans toute la France en ce lundi 22 juin. C'est un événement, bien évidemment, pour toute la filière du cinéma, je crois.
Tout à fait. Toute la filière rouvre en même temps. On est assez solidaire, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc faut pas oublier que voir un film dans une salle de cinéma, c'est quand même le meilleur endroit pour l'apprécier, parce qu'on est vraiment bien installé, on a un grand écran, un bon son, et on partage des émotions avec dans une salle avec des gens qu'on ne connaît pas, etc. Quand on va voir une comédie, il y a son communicateur. Quand on va voir un film de genre, on peut être surpris par la peur de son voisin ou par l'écran, etc. Donc, on décuple les émotions au cinéma.
Patrice, est-ce que tu as un coup de cœur dans les films qui n'ont pas pu aller au bout de leur carrière et qui vont ressortir ce 22 juin, que ce soit film américain ou film français?
J'avais un coup de cœur, mais ce coup de cœur avait anticipé sa non-sortie au cinéma et il l'avait décalé avant qu'on soit confiné. C'était Miss.
Oui, qui sortira le 22 septembre.
23 septembre, je crois.
Et on sera là, bien évidemment, pour épauler la sortie. Mais dans les films là qui reviennent aujourd'hui en salle, quel est ton coup de cœur? Tiens, qu'on passe un extrait là, pour te faire plaisir.
Je dirais La Bonne Épouse.
Eh bien, allez, de Martin Provost.
Ou même le documentaire qui est vraiment, vraiment un très gros coup de cœur pour moi. C'est le documentaire de Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand. Ça s'appelle Woman,
oui.
que je conseille à tout le monde et surtout aux hommes.
Exactement, effectivement. Et on a pu voir d'ailleurs un très très beau débat, notamment sur certains méga CGR de
tout
France.
Tout à fait.
Merci Patrice d'avoir été avec nous. On va écouter un petit extrait de La Bonne Épouse qui était sorti vraiment juste avant le confinement, le film de Martin Provost, que je vous conseille. Juste après, on va réécouter la venue de Franck Dubosc. C'était dans Chute, on écoute la télé pour la sortie du film 10 jours sans maman. C'est notre spéciale réouverture des cinémas aujourd'hui dans Chute, on écoute la télé. Merci Patrice, à très vite.
Merci, au revoir.
Pendant les 2 années que nous allons passer ensemble à l'institution ménagère Van der Beek, vos futurs professeurs et moi-même allons avoir la délicate mission de faire de vous la perle des ménagères.
Rotation de chiffon, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre.
La Bonne Épouse est avant tout la compagne de son mari. ce qui suppose oubli de soi et bonne humeur.
Arrête!
Robert! Il est tout! T'appelles une langue!
24 ans de vie commune.
C'est quoi ça?
Mais c'est des lettres d'huissier.
Je peux entrer? Nous sommes ruinés.
Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, on a planté un petit peu le décor avec Ludovic à l'instant. Moi, déjà, première question que j'ai envie de te poser, Franck, qu'est-ce qui t'a plu dans ce projet?
Ce qui m'a plu d'abord, c'est que c'était une comédie familiale. Moi, j'aime les comédies familiales. On n'en fait pas toujours, j'en ai fait beaucoup, mais c'est pas toujours le cas de tous les films que je fais. Donc, j'aime bien pouvoir réunir, surtout maintenant que je suis papa, j'aime bien pouvoir dire, tiens, on va faire une avant-première du film de papa et que mes garçons puissent voir un film que j'ai fait, voir au moins pourquoi papa s'en va de temps en temps pour travailler. Et puis ensuite, parce que je trouve, au-delà du côté drôle de la chose, du côté léger, je trouve que c'est, je m'y retrouve tellement là-dedans, dans cet homme qui ose dire à sa femme, toi, une fois que t'as porté les enfants à l'école à 9h, entre 9h et 16h, t'as plus rien à faire. Je me suis tellement retrouvé là-dedans, ça m'a tellement donné une petite claque, que je me suis dit, ça ne peut qu'intéresser les gens, en tout cas, pour se divertir, puis pour éventuellement que les couples qui y vont puissent donner des coups de coude en se disant, t'as vu, que les femmes puissent dire à leurs hommes, t'as vu, t'es comme ça. J'avais envie de ça, la petite leçon gentillette qu'on peut donner à nous les hommes.
Quand t'as lu le scénario, justement, tu as pu t'identifier, toi qui, à mon avis, aussi sans arrêt sur les routes, tout le temps, dans les trains, dans les avions, entre les spectacles, les tournages, les préparations de films, à un moment, tu t'es dit, c'est vrai, mes enfants, j'en ai peut-être pas assez profité ou j'en profite pas assez.
Oui, c'est-à-dire qu'on les regarde pas assez, on les regarde pas de la bonne manière, en fait. On croit qu'on les regarde, on croit qu'on est là, et puis finalement, on n'est plus là avec la tête, on est là avec le corps, mais plus avec l'esprit. Et puis on finit, effectivement, par se regarder soi, par regarder tout ce qu'il y a autour, par avoir l'impression d'être débordé, et puis, oui, de les oublier un peu, mais eux nous oublient pas et savent nous le rappeler, mais quand ils nous le rappellent, les enfants, parfois, il est un petit peu trop tard. Donc il faut réagir avant.
Chérie, tu pourras m'aider avec le contrat de la succursale, là, parce que je comprends rien.
Maman, j'ai mal à la tête, je veux pas aller à l'école.
Maman, y'a plus d'oignon !
Maman, il est où l'iPad ?
Maman ! Il est où mon sac de cours ?
Moi, c'est les enfants, tout le temps, les enfants.
Ça va, une fois que tu les as déposés à l'école, les enfants, t'as toute la journée pour t'occuper de toi, ça va.
T'es sérieux, là ?
Je donnerai n'importe quoi pour être à ta place.
Vraiment ?
Allez, on va continuer évidemment à parler cinéma avec dans un instant eh bien Anne Policevich et Annabelle Langrone pour le film Fille de joie qui est sorti lundi dans les salles. On continue notre spéciale réouverture des cinémas dans toute la France aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors surtout, ne bougez pas, à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, de retour dans Chut, on écoute la télé et on continue notre spéciale réouverture des cinémas avec notre coup de cœur ciné de la semaine consacré au film Fille de joie qui sort aujourd'hui dans les salles exceptionnellement un lundi. Et bien oui, puisque même si les films d'habitude sortent le mercredi, c'est une semaine pas comme les autres qui démarre aujourd'hui. Et bien nous avons la chance pour Fille de joie justement d'avoir sa réalisatrice, sa co-réalisatrice en ligne avec nous. C'est Anne Policevich qui est avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On va être rejoint dans quelques instants par Annabelle Langrone qui sera avec nous et qui joue un des trois rôles principaux de votre film. Un film que moi j'ai eu la chance de voir la semaine dernière en avant-première. Un film difficile, mais je vais vous laisser déjà évoquer un petit peu le sujet en quelques mots du film, si vous voulez bien, Anne.
C'est l'histoire donc de trois femmes qui partagent un secret puisqu'elles vivent dans un même endroit dans le nord de la France, dans une cité, et le matin elles se rejoignent sur un parking pour traverser la frontière et pour aller se prostituer en Belgique.
À l'insu de toute leur famille et amis.
Voilà, c'est des histoires de double vie, de vie cachée. Et on est avec elles dans leurs trois histoires, dans leur vie normale, entre guillemets, leur vie de famille et leur vie au bordel.
Qu'est-ce qui vous a donné l'envie avec votre co-réalisateur ? Parce que je sais que vous êtes un petit peu plus instigatrice de ce projet, mais qu'est-ce qui vous a donné envie d'évoquer et de parler de ce sujet, justement, des prostituées frontalières ?
Ouais, ben en fait, moi, je suis française qui vit en Belgique depuis 24 ans. Donc, c'est vrai que je connais les deux pays. Après, ça a à voir avec ça, mais j'avais pas décidé de faire un film sur la prostitution. C'était pas, même si après, je pense que, comme beaucoup de gens, c'est un sujet qui fascine, parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas, ou en tout cas on a plein de clichés dessus, plein de fantasmes, qu'on soit des hommes ou des femmes. Mais le point de départ du film, c'était vraiment de parler des femmes. Et moi, j'ai eu une petite fille, et c'est vrai que mettre une petite fille au monde, ben, ça m'a assez bouleversée, ça m'a posé pas mal de questions. Tout d'un coup, je me suis dit que je mettais une nouvelle femme dans ce monde qui est quand même pas très, qui est plutôt hostile aux femmes, en fait, et en connaissant aussi tous les dangers. Et voilà, je voyais aussi beaucoup autour de moi mes amis qui galéraient, et surtout les femmes seules avec enfants qui se battaient dans des situations assez précaires, mais toujours avec la tête haute, avec beaucoup de dignité, et toujours pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Et un jour, je suis tombée sur un article qui parlait de ces femmes qui traversent la frontière, effectivement, donc entre la France et la Belgique, puisque en Belgique, la prostitution est tolérée. On va dire, elle n'est pas légale, mais elle est tolérée. Et ça se passe entre la France et la Belgique, mais ça se passe entre la France et l'Espagne, entre la France et l'Allemagne, en fait tout autour de la frontière française. Et voilà, et j'ai lu cet article qui m'a vraiment marquée parce qu'elle parlait justement de ces doubles vies et de ces femmes qui se battaient en fait pour leur dignité. Et je me suis dit que c'était l'angle d'attaque pour moi pour parler d'histoire de femmes, d'héroïsme et de solidarité et de dignité.
Alors, vous avez choisi trois femmes différentes pour évoquer ces destins. On a vraiment la prostituée vieux de la vieille, comme on peut dire, à travers Noémie Loski, qui a déjà, comme on dirait, un peu d'expérience là-dessus. On a la torturée, incarnée par Sarah Forestier, qui vit mal la situation. Puis on a la légèreté, incarnée par Annabelle Langrone aussi. Comment vous avez fait justement pour choisir un peu ces visages, ces caractères que vous vouliez faire incarner dans votre film?
Ben, comme je le disais, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, au début, je suis partie d'histoires de femmes. C'est-à-dire que je me suis raconté des histoires de la vie courante, en fait, de situations, oui, de différents caractères. J'ai inventé les personnages, j'ai inventé leurs histoires. Après, on invente toujours en puisant aussi dans le réel, dans ce qui nous entoure. Et à un moment donné, je me suis, donc je suis partie sur les histoires de ces femmes. Mais vu que ces femmes, ben, leur travail, c'est d'aller, quoi, leur double travail, parce que Noémie Loski l'incarne aussi, elle est aussi infirmière, comme Sarah Forestier, on voit pas vraiment si elle a un autre boulot ou pas, mais elle déjà s'occupe de sa famille, de trois enfants et de sa mère, c'est déjà pas mal. Le personnage d'Annabelle, elle est sans travail. Et en fait, vu que leur travail, ben, ou un de leurs travail, c'est d'être travailleuse du sexe, je me suis dit que je pouvais pas non plus parler de ça sans connaître. Et donc, après avoir écrit le premier jet de l'histoire, en fait, je me suis dit que c'était indécent de ne pas rencontrer ces femmes, et donc j'ai été à leur rencontre et j'ai été rencontrer des femmes qui travaillaient dans un bordel, et je suis restée longtemps avec elles. Et donc aussi ça a nourri le scénario, et ça a nourri évidemment toutes les scènes de bordel, puisque moi j'étais avec elles dans le salon des filles, ce qu'on appelle le salon des filles, c'est-à-dire l'endroit où il n'y a aucun homme qui rentre, où elles sont là et elles attendent entre elles. Et donc elles m'ont accueillie, elles m'ont laissé voir et vivre leur vie dans cet endroit-là, et aussi elles m'ont aussi beaucoup raconté leur vie à l'extérieur.
Et comment vous avez choisi vos trois actrices alors, justement, Sarah, Noémie et Annabelle?
Alors, comme je dis souvent, bah, déjà on est deux, hein, puisque donc moi j'ai effectivement écrit et j'ai été dans les lieux, etc. Puis après on a co-réalisé avec Frédéric Fontaine. En fait, les actrices, moi je dis souvent qu'elles ont déboulé dans le film. J'ai pas écrit en pensant à des actrices, et Fred il pensait pas non plus. Et puis une fois qu'on avait le scénario fini, bah il a fallu chercher qui pouvait incarner ces femmes.
Bien sûr.
Et en fait, quand je dis qu'elles ont déboulé, c'est-à-dire qu'elles sont chacune apparues à un moment donné avec évidence et aussi avec un désir très très fort de jouer dans le film. Et donc ça a été des vraies grandes rencontres, en fait.
Eh bien, c'est ce qu'on va demander justement à Annabelle, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Anne, le film sort aujourd'hui dans les salles. C'est un véritable événement de voir son film sortir pour un événement comme aujourd'hui, la réouverture des salles de cinéma dans toute la France. C'est chouette, ça.
Ouais, c'est super. C'est vrai que c'est un film surprenant. On a vécu plein de choses très très fortes avec ce film, et qu'il devait sortir juste avant le confinement, et ça a été un peu un drôle de truc, tout d'un coup le film qui ne sort pas, et en même temps ça nous a, voilà, c'était comme ça, ça faisait partie aussi de la vie, ça nous a pas choqué plus que ça, mais c'était assez étrange. Et là, le fait qu'il ouvre les salles, il continue à nous surprendre, en fait. Et on est très heureux.
Eh bien, allez, on soutient le cinéma, bien évidemment, et on retourne dans ces salles de cinéma. C'est important, évidemment, ça rouvre aujourd'hui. Et je vous conseille donc cette semaine ce film, voilà, dur et en même temps à pas mettre forcément entre toutes les mains, mais que je vous conseille vraiment. C'est un très beau film, en tout cas, que vous avez réalisé avec Frédéric. Merci beaucoup, Anne, d'avoir été avec nous. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce, et puis juste après, c'est Annabelle Langrone qui nous rejoint pour nous parler de Conso, son personnage. Merci, Anne, à très vite.
Merci, au revoir.
Enlève-moi ce maquillage. Mais tu ressembles à mamie, là.
Pas ça.
J'ai besoin d'un nouveau téléphone.
Parle-moi comme ça, tu l'auras ton téléphone.
Eh, hey, mademoiselle, tu veux pas me sucer 5 minutes ou quoi?
Tu peux demander à ta mère, non?
Ah, c'est bon.
Bonjour, madame. Comme j'expliquais à votre mari...
Donc déjà, c'est pas mon mari.
C'est mon fils.
C'est notre fils. Et c'est moi qui la garde.
Quand on n'a même pas le bac, on peut pas espérer décrocher la lune.
Salut.
Lola, Hera, Sherazade. Pour les prestations, 100 euros la demi-heure, 130 les trois quarts d'heure.
Plus vite.
T'étais où la nuit dernière?
Toi, t'étais où?
Tu reviens encore une seule fois, je te jure que j'appelle les flics.
Moi, j'ai des rêves, ok? Moi, j'ai toute la vie devant moi.
Et voilà, on va continuer évidemment à reparler de ce film Fille de joie, c'est notre coup de cœur cinéma aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Après Anne qui est avec nous, la co-réalisatrice il y a quelques instants, eh bien on va s'attarder évidemment sur un des trois rôles féminins principaux aux côtés de Sarah Forestier et de Noé Milowski. Eh bien c'est Annabelle Langrenne qui nous rejoint. Bonjour Annabelle.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Alors Annabelle, on a eu la chance de vous voir aux côtés de Corinne Maziroux dans un téléfilm qui a cartonné sur TF1, c'était Colombine, un téléfilm tourné en Afrique. Et vraiment un joli téléfilm, on espère d'ailleurs qu'il y aura une suite aussi.
Moi aussi, j'espère, oui.
Alors on a eu l'occasion de voir aussi dans les Kaira, il y a eu des petits rôles dans Fais pas ci, fais pas ça, voilà, il y a eu pas mal de choses. Annabelle Langrenne, j'ai l'impression que c'est un petit peu l'actrice qui monte en ce moment.
Bah, écoutez, ça fait 10 ans que je fais ce métier donc d'actrice et il faut se donner les moyens d'avancer et il y a de plus en plus de beaux projets qui me sont proposés. Donc on va dire que oui, en ce moment ça se passe bien et voilà, en tout cas, j'adore ce que je fais donc je pense pas qu'il y ait de raison pour que ça se passe mal en tout cas.
Ben, il n'y a pas de raison. Et puis, on va parler évidemment de ces... Alors, on a planté le décor avec Anne, hein, il y a quelques instants. Mais évidemment, on va s'attarder un petit peu plus sur le rôle de Conso. Conso, c'est cette jeune femme à qui il arrive bien des misères dans ce film à un moment donné. C'est peut-être même celle des trois qui a le plus de misères, pour le coup. Mais déjà, Annabelle, comment on réagit quand on reçoit sur le papier un scénario comme celui-ci et un rôle comme celui-ci?
Bon, j'avoue qu'il y avait un peu de panique au début parce que c'est quand même, voilà, c'est quelqu'un qui vit des choses très, très intenses. Et à vrai dire, je n'avais jamais eu entre les mains une proposition de rôle comme celle-là, c'est-à-dire un personnage qui choisit pour endurer toutes ses misères d'être dans la légèreté, d'être dans le rire, d'être dans la positivité. Et j'ai souvent joué des rôles de femmes très dures, très sombres. Et là, c'était la première fois qu'on proposait un rôle d'une fille qui est naïve, on va dire, parce qu'elle est assez naïve, Conso, elle croit vraiment que tout va bien se passer, que tout va s'arranger, mais malheureusement dans la vie des fois, et surtout dans la vie de ces femmes-là, il y a souvent des choses très difficiles à vivre. Donc voilà, c'était un très beau rôle qu'on m'a présenté.
Alors effectivement, hein, si le rôle de celui de Sarah Forestier paraît le plus torturé, c'est celui de Conso qui amène le plus de légèreté au final, enfin du moins au début du film, mais qui amène le plus de légèreté, de rire aussi. Et puis dans cette histoire difficile, est-ce que vous aviez connaissance d'histoires de ces personnes qui mènent des doubles vies sur justement des régions frontalières comme ça?
Alors non, pas du tout,
Ça vous a éclairé là-dessus justement alors?
Ben de toute façon, la chance qu'on a eue pour la préparation de nos rôles, parce qu'il faut savoir que au cinéma, tout va très vite du moment où on reçoit le scénario. Après, il faut travailler, s'occuper de son rôle quoi. Et là, moi, je me disais comment je vais faire pour rentrer dans la vie, incarner quelqu'un dont je ne partage absolument pas la vie, quelqu'un dont je ne connais pas du tout le quotidien, parce que c'est une responsabilité, c'est quand même des choses qui existent, c'est des choses qui se vivent tous les jours à côté de nous, quoi. Et donc, la moindre des choses pour être crédible dans le rôle et aussi pour rendre hommage aux personnes qui vivent tout ça, c'est de rentrer... c'est d'aller au-devant de ces personnes. Et c'est ce qui s'est passé. On a eu la chance de rencontrer des travailleuses du sexe, donc dans une ville frontalière entre la France et la Belgique.
Est-ce qu'il y a des scènes qui ont été particulièrement difficiles pour vous, Annabelle?
Alors, à vrai dire, la scène qui a été difficile à faire pour moi, c'est la scène, il y a une scène où je fais l'amour avec un homme que j'aime, on va pas tout spoiler. C'est pas une scène de passe, donc hein, c'est une scène où elle fait vraiment l'amour parce qu'elle est amoureuse de
cet homme en quel elle croit finalement.
Oui, voilà. Et donc, ça fait partie du métier. C'est-à-dire que quand on a des scènes, on doit être tout nu, donc faire semblant de faire l'amour, c'est assez gênant, c'est assez angoissant.
Surtout mais quand il y a 40 techniciens derrière.
Non, alors il y a heureusement 40.
Ah, il y en a un peu moins généralement quand même, hein, quand il y a des scènes comme ça qui se tournent, mais c'est toujours gênant.
Mais en tout cas, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que avant, au préalable, avec mon partenaire, qui s'appelle Jonas Bloquet, qui est un super comédien, un super partenaire, qui n'était pas très à l'aise non plus, avec le réalisateur, avec Anne et Frédéric, les réalisateurs, on a chorégraphié tout ça. Voilà, c'est très mécanique. On se dit, voilà, là, on fait ça, on s'assoit, on machin, on fait ça. Puis, il y a ce qu'on appelle l'équipe réduite, c'est-à-dire que les 40 techniciens dont vous parlez, ils s'en vont, enfin, pour la plupart. Et du coup, il en reste vraiment, vraiment pas beaucoup. Il y a juste les gens qui ont besoin vraiment d'être là pour tourner les scènes intimes, comme celles du film. Et voilà, finalement, ça s'est vraiment bien passé.
Est-ce qu'il y a des projets pour vous, Annabelle? Est-ce qu'on va vous voir dans d'autres choses aussi en 2020, 2021, des choses qui peut-être étaient en suspens à cause du coronavirus, mais qui vont reprendre bientôt? Est-ce qu'il y a des tournages en cours?
Oui, alors j'étais au début de l'année, j'étais quand le film est sorti en Belgique, j'étais au Maroc et au Cameroun parce que je tournais une série Canal+. Donc voilà, je peux pas vous en faire plus malheureusement.
Oui.
Voilà. Il y a aussi des projets assez importants pour l'année prochaine, notamment un film américain.
Ah, carrément.
Je ne peux pas en dire plus non plus. Pour l'instant, il y a quand même des choses très intéressantes qui arrivent.
Eh bien, on suivra ça. Annabelle, on reste en contact. Oui. Et puis, on en reparle, évidemment.
Ça marche.
Bon, Annabelle, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Je vous rappelle donc que Fille de joie, ça sort aujourd'hui dans les salles. Un retour, évidemment, eh bien, en cinéma qui est le bienvenu puisque tous les cinémas, je vous rappelle, rouvrent aujourd'hui en France et c'est un véritable événement. Merci beaucoup, Annabelle, et à très vite.
Merci à vous, très bonne journée.
Et on va se requitter avec un petit extrait de Fille de joie, c'est parti.
Donc, il y a Yakoufio, elle se réveille pas, putain! Ça m'empêche de vous aimer, ça m'empêche pas de vous aimer!
Pas sale pute, putrou.
Je t'ai fait un prix.
Vous vous connaissez?
Tu es la babysitter de mes enfants.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, coups de cœur télé consacré à la folle aventure de Louis de Funès, qui sera diffusé vendredi soir sur France 3, un documentaire inédit réalisé par Lucie Carriès, qui est justement, eh bien, en ligne avec nous. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Alors, ce documentaire est aussi narré par Isabelle Nanty, qui apporte son regard aussi. Alors, première question que j'ai envie de poser, pourquoi Isabelle Nanty, Lucie?
Parce que c'était important que ce soit une femme, parce que c'est moi qui ai écrit le film et je pense que c'est un regard peut-être un peu féminin, je sais pas. Et Isabelle Nanty parce que pour moi elle s'inscrit dans une espèce de filiation de cet humour généreux, populaire, cette capacité à partir comme ça dans une espèce de délire burlesque. Et donc c'était comme une évidence, il fallait que ce soit Isabelle Nanty.
Alors Louis de Funès, évidemment, pour toute une génération, c'est un comédien incroyable qui a su traverser le temps, les époques, ses films aussi. On a pu le voir encore pendant le confinement, où on a pu voir de nombreux films avec lui. C'est un parcours intime qui va être tracé vendredi. On va en savoir beaucoup plus sur sa famille, sur ses débuts, des images d'archives. Beaucoup de choses qu'on ne savait pas forcément vont être racontées dans ce documentaire, hein, Lucie?
Oui, c'était l'idée, en fait. Tout est venu de mon envie de m'approcher un petit peu de Louis de Funès, que j'adore comme beaucoup de monde. Mais moi, en fait, moi j'ai 50 ans et j'ai pas du tout souvenir de l'avoir vu petite fille dans des émissions de télé. Et donc je suis allée regarder sur le site de l'INA et j'ai découvert des archives où l'homme de Funès apparaît tout à fait différemment du comédien, enfin de ses personnages en tout cas. J'ai découvert quelqu'un d'extrêmement sensible, délicat, pudique, réservé et assez charmant. Et donc j'ai eu envie de montrer ça. Et c'est pour ça que c'est ce choix de faire un film tout en archives, où c'est presque lui qui se raconte plus que nous.
Les premières images qu'on voit, et ça rejoint un peu ce que vous dites justement Lucie, c'est vraiment Louis de Funès en 1980 sur la scène des Césars, et on voit effectivement Louis de Funès très timide justement sur cette scène.
Oui, très très timide et très ému. Et ce qui est fou, c'est qu'il ne va pas dire un mot pendant tout ce moment où il est sur scène. Il est appelé sur scène par Kirk Douglas. Maurice Reims, on l'a pas mis dans le film, mais Maurice Reims lui taille un très très bel hommage. Et ensuite, Jerry Lewis arrive pour lui remettre. Donc vraiment, c'est des monstres sacrés qui lui tendent la main. Et il est comme tétanisé. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on s'attend à ce qu'il fasse l'imbécile, etc. Pas du tout. Et je pense qu'il est saisi par cette émotion. Et c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir le film sur ce moment. Parce que c'est tellement pas le Louis de Funès qu'on connaît. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Et c'était un moyen de rentrer effectivement dans sa tête et d'imaginer ce qu'il a pu penser à ce moment-là.
Alors ce qui est assez incroyable, Lucie, c'est que Louis de Funès a une carrière qui a démarré quand même assez tard, sur le tard finalement. Il est devenu un comédien ultra connu tard et aujourd'hui il n'en finit pas de traverser les époques. Vous qui êtes rentré un peu justement dans cette intimité du personnage de Louis de Funès, comment vous expliquez ça à votre niveau de réalisatrice que aujourd'hui Louis de Funès en 2020, on rit toujours autant devant la Grande Vadrouille, devant la Soupe aux Choux encore diffusée là sur France 3, devant des films comme L'aile ou la cuisse, c'est des films qui ne vieillissent pas. On a l'impression qu'en 2060, ces films seront encore diffusés. Et peut-être que Louis de Funès nous aura quittés depuis 100 ans, mais il sera toujours là.
Alors, je ne sais pas si ce sont des films qui ne vieillissent pas ou si c'est Louis de Funès qui ne vieillit pas. Parce que les films ont quelque chose, en tout cas certains, d'un petit peu, peut-être, un peu vieillis. Ou par exemple, La Soupe aux Choux, c'est quand même pas d'une modernité renversante. Mais d'abord, je pense qu'il y a le rire d'anticipation, c'est-à-dire que pour toute une génération, plusieurs générations, on rit 3 secondes avant que le gag arrive, tellement on sait qu'il va arriver, et il y a une espèce de jubilation à anticiper la chose. Les enfants découvrent ce type hyper propre sur lui, en costume, qui fait des choses totalement interdites. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à dire aux enfants, tu vas pas faire un caprice, tu vas pas trépigner, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et lui, il s'autorise à faire le contraire des codes sociaux qu'on essaie d'inculquer aux enfants. Donc pour les enfants, c'est absolument jubilatoire aussi, je pense. Et il y a quelque chose qui fait que ça nous réunit. C'est-à-dire que c'est le dernier mot du film qui nous réunit, qui continue de nous réunir. Et je pense que pendant le confinement, on a eu besoin de ça. On était tous logés à la même enseigne, même si on a vécu cette période de façon différente. Ça a été dramatique, plus que dramatique pour beaucoup, beaucoup de monde. Mais il y a eu ce besoin, peut-être, de se faire du bien en même temps. Et de Funès nous fait du bien. Et ça fait 60 ans que ça dure, en fait. Et donc,
oui.
Donc il y a ça aussi. C'est-à-dire que, par exemple, La Grande Vadrouille, hors confinement, c'est encore des millions de Français qui, presque chaque année, se retrouvent devant la télé. C'est un rituel, ça devient une espèce de rituel cathodique. Et il n'y a que deux funestes qui sont capables de faire ça.
Eh oui, c'est vrai. Et on va en apprendre aussi, bien sûr, dans ce parcours sur les femmes qui ont marqué, évidemment, sa vie. On apprend, évidemment, on rentre dans l'intimité hein, du personnage. Ses failles aussi, il était réputé pas toujours facile hein, dans le travail. Hein.
Non, il n'était pas facile. Mais il était extrêmement exigeant, ce qu'on dit généralement des gens qui sont pas faciles, mais c'est vrai. Et il l'était d'abord avec lui-même, c'est-à-dire qu'il avait une pression phénoménale sur les épaules.
Mais il faut dire que des films beaucoup reposaient beaucoup sur lui, très souvent. Hein.
Complètement, ouais, complètement. Donc les producteurs lui faisaient un petit peu la danse des 7 voiles, et puis après c'était lui qui devait assurer tout en fait. Et donc c'était des équipes entières qui dépendaient de lui. Donc c'est toujours très compliqué maintenant, a posteriori, de dire qu'il était dur. Il était dur, il était exigeant, mais il y avait vraiment une grosse pression sur ses épaules.
Lucie, quelle est la plus grosse surprise que vous avez découverte en regardant les images d'archives, en montant ce film sur Louis de Funès?
Alors la plus grosse surprise, ça a été de pouvoir accéder à ses notes personnelles, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui passait son temps à chercher des idées de gags et qui les notait partout, tout le temps. Et petit à petit, mais quand je dis partout, c'est-à-dire qu'il y a même, on n'a pas pu les mettre dans le film, mais il y a même une carte d'embarquement où il note une idée de gag avec des chariots, et puis c'est mal écrit, on sent que ça a été écrit sur sa cuisse, son genou, et puis il n'y a pas la place, donc il prend celui de sa femme, la carte d'embarquement de sa femme, et il passait son temps, voilà, à prendre des notes. Et petit à petit, les cahiers les carnets, les notes sont devenus des considérations sur la vie, sur le monde et le regard qu'il portait sur le monde, jusqu'à la fin où ça devient presque testamentaire. Et en fait, j'ai découvert quelqu'un qui a quand même passé son temps, au-delà de la dureté, etc., qui a passé son temps à essayer d'être meilleur, c'est-à-dire de se bonifier, d'être plus généreux, plus ouvert à l'autre. Et c'est ça qui m'a bouleversée.
Lucie, est-ce que vous avez pu montrer en avant-première ce documentaire à ses petits-enfants, par exemple, à sa famille ?
Alors, malheureusement, pas en avant-première, parce que les circonstances l'ont empêché, mais on leur a envoyé un lien. Et donc, ils ont regardé ça sur leur ordinateur, enfin, ou sur leur télé, j'en sais rien, mais pas en notre présence, malheureusement. Et ils nous ont fait une immense confiance. C'est-à-dire qu'ils nous ont donné accès, notamment aussi grâce au musée Louis de Funès de Saint-Raphaël, à qui ils ont donné les archives personnelles et familiales de Louis de Funès. Et ils nous ont donné accès aux photos de famille, au Super 8, parce que Louis de Funès filmait beaucoup sa famille. Donc, il y a tout ça dans le film et à ses notes dont je vous parlais précédemment. Et ils n'ont vu le film que très, très, très récemment, en fait, il y a quelques jours. Une grande, grande confiance.
Alors, vendredi soir, pour revoir évidemment eh bien, ce très beau documentaire « La folle aventure de Louis de Funès » réalisé par Lucie Cariès et raconté par Isabelle Nanty, ne le manquez pas. Faites-le découvrir également à vos enfants et petits-enfants. Voilà, je suis sûr qu'ils vont passer une soirée délicieuse en la compagnie du comédien, peut-être voilà le plus marquant de plusieurs générations en même temps. Et c'est ça aussi qui fait sa force. Merci, Lucie, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et puis, on va écouter un petit extrait de votre documentaire. À très vite. Merci.
À quoi pense Louis de Funès lorsqu'il se tient sur cette scène des Césars en 1980? Il est là devant tout le cinéma français venu l'acclamer. Il échange quelques mots avec Kirk Douglas, la star d'Hollywood. Mais pourtant, il a l'air d'être seul. Lui, si pudique et souvent timide, semble s'être réfugié dans ses pensées pour se protéger de trop d'émotions. Peut-être, pour se sentir plus fort, commence-t-il à rêver que ses plus fameux personnages le rejoignent? De la folie des grandeurs, du corneau, d'Hibernatus, de Rabbi Jacob. Louis songe aussi à sa femme qui l'accompagne depuis si longtemps et ses enfants, petits et grands. Et voici qui arrive à leur tour. Il revoit le jeune homme qu'il était, pense à celui qu'il est devenu et à sa formidable carrière, tout entière consacrée à nous faire rire.
Allez, coup de cœur télé consacré à la série Un si grand soleil que vous pouvez suivre tous les soirs sur France 2 à 20h40. Et on a eh bien quelques comédiens qui vont se succéder encore une fois pendant quelques semaines. Et on va faire un petit focus aujourd'hui sur le personnage de Janet Lewis qui est avec nous. C'est Tonya Kissinger que l'on reçoit. Bonjour Tonya.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je suis super heureux de t'avoir Tonya. Moi je repars plus de 20 ans en arrière parce qu'évidemment je me souviens de la première fois où on s'était rencontrés, où on était sur le tournage de Sous le soleil à l'époque. Et puis de Sous le soleil, tu passes à Un si grand soleil. Et donc maintenant, eh bien voilà, t'es à l'hôpital d'Un si grand soleil et ça ne rigole plus. Hein.
Bah oui, et c'est vrai que le soleil me suit, c'est plutôt agréable. Et surtout des bonnes équipes aussi, parce que là, on est une très très bonne équipe, comme dans SLS. Et j'ai l'impression que ça part pour longtemps.
Alors, au tout début, on te voyait très peu finalement, on te voyait un peu par dose homéopathique. Et ça y est, le personnage a pris de l'ampleur ces dernières semaines. Et on le voit beaucoup plus souvent, après l'idylle aussi avec Becker, hein, ça y est.
Oui, c'était aussi quelque chose qui était voulu par le producteur, parce que comme j'étais très identifiable dans un personnage pendant très très longtemps, il fallait que les gens ils puissent s'adapter à me voir différemment, à me voir dans un autre personnage, avec un autre caractère et une autre personnalité. D'ailleurs, certaines personnes au début, ils m'ont dit « mais elle est dure, elle est sévère, on n'a pas l'habitude de te voir comme ça ». Je dis « oui, mais c'est un autre personnage ». Donc, à l'amener un petit peu dans sa profession de médecin d'abord, et ensuite sortir dans sa vie personnelle, les gens, ils apprennent un petit peu à connaître qui est Janet. Et je pense qu'ils ne le savent pas encore. Et justement, les auteurs, ils sont en train de s'approfondir de plus en plus pour pouvoir dévoiler qui est cette personne, en fait.
Une série quotidienne. Alors là, le rythme, on sait, sur Sous le soleil, était quand même soutenu hein, au niveau du tournage. Ça a été quand même très, très intense. Là, Si grand soleil, c'est 20 minutes par jour à tourner avec plusieurs équipes. Mais est-ce qu'il y a une différence réellement? Est-ce que ça tourne plus vite? Est-ce que c'est plus rapide qu'à l'époque?
Alors, je vais dire que c'est plus organisé parce que nous, à l'époque, c'était vraiment innovant. Les deux, trois équipes, on était les premiers au départ à avoir deux équipes parallèles qui tournaient tous les jours et ensuite on a rajouté une troisième équipe muet. Ensuite, ils ont eu du son, etc. Et là, c'était la base de l'apprentissage de cette méthode de travail. Et ainsi, Grand Soleil, c'est rodé. Ils savent comment ça marche, donc il n'y a pas beaucoup d'heures sup. Ça tient vraiment dans un cadre bien précis. Il y a quatre équipes qui tournent tous les jours. Et franchement, c'est une énorme machine qui tourne avec 300 comédiens qui sont déjà venus sur cette série en un an. Donc c'est hallucinant. En plus, quotidiennement, donc ça tourne tous les jours, en dehors des week-ends, tous les jours de l'année. Donc ils ont rodé la machine, ça marche très très bien. Donc il y a... C'est moins fatigant dans le sens qu'il y a moins des heures sup qu'on pouvait avoir à l'époque dans la découverte quand on faisait ce genre de travail avec Sous le Soleil.
Alors comment on pourrait la définir justement pour ceux qui n'ont pas ou qui regardent pas un si grand soleil ? Moi j'aurais envie de leur donner envie là, de s'y mettre un petit peu. Alors comment on pourrait la définir, Janet ?
Alors Janet, voilà, c'est une chef de service à l'hôpital qui est plus intéressée, enfin on peut penser qu'elle est plus intéressée par la maladie, par trouver le cure d'une maladie plutôt que les malades, mais c'est pas ça, c'est pas qu'elle a un manque d'empathie, c'est juste qu'il y a un quotidien de médecin qui peut paraître, elle peut paraître parfois un peu froide, un peu sévère. En revanche, elle dévoile un peu plus sa personnalité et sa chaleur de femme avec justement notre cher commissaire Becker, de qui elle est tombée follement amoureuse. Et même si elle le dit pas, mais voilà, elle a du mal à s'exprimer tous ses sentiments comme ça. Et petit à petit, elle va se dévoiler de plus en plus. Là où elle est vraiment sa faille, c'est sa fille qui débarque et où on apprend que voilà, elle a pas demandé sa garde et elle se sent abandonnée, cette fille. Et la faille de Janet, c'est vraiment comment elle a géré son enfant.
Il y a eu des débuts difficiles hein, pour sa fille, avec carrément une prise d'otage. Enfin, ça a été compliqué, les débuts de la fille de Janet.
C'était compliqué son retour à Montpellier et le retour dans la vie de Janet. Et c'était justement... ce qui était intéressant, c'était la relation en même temps qui se développait avec Becker, hein, qui était empoisonné pendant cette prise d'otage. Et d'un coup, cette relation, elle a sauté beaucoup de barrières parce que ils étaient tout de suite dans un intimité très très forte et une choix de vie ou de mort. Donc d'un coup, il y a beaucoup de barrières qui ont été sautées dans cette relation. C'est ça qui était intéressant.
Alors, il y a une autre grande passion dans ta vie quand même, Tonia.
Oui.
C'est la danse.
Oui, bien sûr. C'est toujours une grande passion et ça me manque beaucoup de pas avoir de plateforme pour danser.
Danser avec les stars, ça fait du bien. Ça t'a permis de montrer plein d'autres facettes de toi aussi.
Danser avec les stars, ça m'a permis de vivre un rêve que je pensais inatteignable. Vraiment, je pensais voilà que j'avais fait une croix dessus depuis ma plus jeune âge, depuis l'âge de 15 ans quand j'ai arrêté de danser. Et donc après, quand on m'a donné cette possibilité, en plus, ça a éclore avec la relation avec moi et Maxime et les autres danseurs et sur les tournées, parce que je suis partie 3 ans tourner avec eux. J'ai vécu ce que c'était la scène en tant que danseuse, alors que je pensais à mon âge jamais avoir cette possibilité-là. Donc dès que Maxime m'appelle de temps en temps pour faire un petit événement, moi je saute de joie et je cours parce que j'adore.
Oui, c'est notre belle passion. Alors, les prochaines semaines pour Janet, qu'est-ce que tu peux nous dire, voilà, sans trop en dévoiler bien évidemment.
Elle va avoir un incident qui va arriver et qui va ramener un peu son passé. Le passé que les spectateurs connaissent et c'est difficile de pas dévoiler, c'est c'est dur, mais ça va arriver très vite, d'ici 2 mois, un peu moins de 2 mois.
On va avoir besoin d'aide en tout cas pour se défendre.
Elle va avoir besoin d'aide pour se défendre, exactement, et ou d'ailleurs elle va aller au tribunal, quoi. Elle va se retrouver au tribunal
et où le gendre de Becker va peut-être être d'un grand secours.
Exactement.
Voilà, on va se quitter là-dessus. Tonia, merci. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour la suite, à part un si grand soleil ?
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent en 2020 ?
J'ai pas mal de théâtre, donc on va voir quand est-ce que ça se... au niveau des dates et tout ça, de ce qui va se passer. J'ai une pièce qui a été repoussée d'un an, mais voilà, je suis sur plusieurs pièces de théâtre.
Eh bien, écoute, on te souhaite plein de belles choses, en tout cas pour la suite, et on te dit à très vite, et notamment eh bien, ce soir à 20h40 sur France 2.
Oui, merci. À bientôt.
Merci à toi.
Le rendez-vous des stars... C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et dernière partie de Chute, on écoute la télé dans un tout petit instant avec Stéphane Strano, le président du Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Alors à tout de suite, bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chute, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Chute, on écoute la télé, chute, on écoute la télé, le talk show radio. Chute, on écoute la télé, spécial festival.
Allez, de retour dans Chute, on écoute la télé, dernière partie de notre émission consacrée au Festival de la Fiction Télé. Vous savez qu'on a appris maintenant, il y a une petite dizaine de jours, eh bien le déplacement de cette édition du côté de Paris. Et puis, eh bien celui qui est le président, justement, du Festival de la Fiction Télé, qui était aussi le producteur du téléfilm que vous avez vu vendredi soir sur France 3, Jusqu'à ce que la mort nous unisse, eh bien c'est Stéphane Strano qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Alain.
Merci.
Merci de me recevoir dans ton émission.
Et merci à toi d'être avec nous. C'était une vraie tuile évidemment pour nous en Nouvelle-Aquitaine d'apprendre évidemment que le Festival de la Fiction Télé ne se fera pas comme d'habitude cette année sur le port de La Rochelle. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles dans tout ça. Mais d'abord, est-ce qu'on peut exprimer en quelques mots, Stéphane, les raisons qui t'ont poussé à prendre cette décision difficile ?
Écoute, les raisons, elles sont évidentes. Hein. On réagit à une crise qui est mondiale. Et cette crise mondiale, elle a engagé beaucoup de modifications qui ont petit à petit diminué l'image qu'on a du festival. Nous n'avons pas réussi à rassembler des œuvres, un nombre d'œuvres suffisant pour pouvoir imaginer une édition à La Rochelle en septembre avec cette proposition multiple d'œuvres qui viennent de toute l'Europe, qui viennent de toute la création française, dans tous les genres. Cette année, malheureusement, nous manquions d'œuvres. Ce manque d'œuvres engageait évidemment l'absence d'une sélection officielle, l'absence d'un jury, l'absence d'une présidence de jury et d'un palmarès. Tout n'était pas rassemblé, malheureusement, pour imaginer une édition comme on a l'habitude de la vivre à La Rochelle au mois de septembre.
Alors Stéphane, ça s'explique notamment évidemment par le coup d'arrêt hein, mis sur tous les tournages de télévision ce printemps. Évidemment, des fictions qui d'habitude se tournent au printemps et qui viennent se présenter à La Rochelle en septembre. Donc vu ce retard, c'est ce qui explique certainement ce manque d'œuvres.
Hein. Exactement, c'est exactement ce coup d'arrêt qui a absolument tout décalé entre le coup d'arrêt et l'absence d'œuvres, c'est-à-dire la diffusion par les chaînes des œuvres inédites qui vont naturellement au Festival de La Rochelle, parce que tout le monde a envie d'y aller, on s'est retrouvé avec, au jour d'aujourd'hui, à peine 5% d'œuvres proposées au comité de sélection. Il nous était impossible d'imaginer construire une sélection officielle digne du Festival de La Rochelle.
Alors, il y a des bonnes nouvelles hein, qui vont arriver, on va vous les dire évidemment d'ici quelques instants, mais d'abord, donc déjà, l'édition du Festival de la Fiction Télé 2020 n'est pas abandonnée pour autant, il va se faire de façon différente du côté de Paris, sous forme de 3 jours, réservés uniquement, et ça faut le dire pour l'instant, aux professionnels, des professionnels qui vont pouvoir enfin se rencontrer, échanger sur cette crise majeure que traverse aujourd'hui le milieu de l'audiovisuel et du cinéma.
Exactement Alain, l'idée c'est tout d'abord de rappeler que le festival est une association de professionnels et qu'il nous semblait essentiel et incontournable, après ce coup d'arrêt qu'on a décrit, d'engager, de structurer la rencontre de l'ensemble des professionnels pour aborder toutes les questions que vont poser de manière grave et industrielle ce coup d'arrêt qui a été donné par cette crise mondiale. Donc il m'a semblé essentiel de trouver un temps politique, même si on y verra quelques œuvres, hein, puisqu'on peut imaginer avoir 5 ou 6 œuvres inédites proposées par l'ensemble des diffuseurs français, et puis des débats, des tables rondes et tous les sujets qui tiennent à cœur au festival depuis plusieurs années, qu'on pourra aborder de manière professionnelle pendant 3 jours à Paris, du 16 au 18 septembre, à Paris, dans un lieu unique et prestigieux. Mais je ne peux pas en dire plus pour l'instant sur ce lieu, tu vas t'en douter. Et puis, ensuite, on a organisé autre chose, pardon de devancer peut-être ta question, mais le grand public, la rencontre avec le grand public, celle qui a lieu chaque année depuis 22 ans à La Rochelle, on ne peut pas l'abandonner. Et donc, on a décidé d'imaginer à partir du 15 décembre, 3 jours, d'une édition spéciale qu'on va appeler le hors-saison, hors-saison du Festival de La Rochelle, où on aura à ce moment, à la fin de l'année, des œuvres à proposer au grand public, des dédicaces, des échanges avec les stars, et on viendra en force à La Rochelle pour rencontrer notre public chéri.
Eh bien, j'espère bien. Et puis, il faut savoir que ce festival hors saison, c'est un festival qui est amené à perdurer puisqu'il était prévu à la base en avril. Alors, il était annulé évidemment à cause du confinement. Il a même pas eu le temps d'être annoncé pour le coup. Mais du coup, ce festival hors saison reviendra en avril 2021. C'est un rendez-vous que tu donneras en fait tous les ans au printemps par la suite, au milieu des deux éditions de septembre du Festival de la Fiction Télé.
Alors ça, cher Alain, ça fait partie des grandes bonnes nouvelles qu'on peut d'ores et déjà annoncer, c'est que nous allons venir au 15 décembre. À partir du 15 décembre, la date est encore à fixer à La Rochelle pour présenter ce festival hors saison, mais on reviendra au mois d'avril 2021 pour engager cette continuité, cette relation avec les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Évidemment, c'est une idée qu'on a eue et qui n'a pas pu avoir lieu pour cause de confinement. On la met en œuvre dès aujourd'hui. Donc, quelque part, il y a une bonne nouvelle puisque maintenant, nous aurons deux grands rendez-vous dans l'année pour rencontrer le grand public.
Et on sera à tes côtés, bien évidemment, mon cher Stéphane, tu le sais, pour t'accompagner sur ces grands rendez-vous. Alors, une chose qu'il faut rassurer aussi, je pense, nos auditeurs, puisqu'on a lu par-ci, par-là, évidemment, mais voilà, si le festival se délocalise à Paris cette année, va-t-il revenir à La Rochelle en septembre 2021 ? Je pense que le festival est très, très attaché à la ville de La Rochelle et ne souhaite pas du tout changer de ville et reviendra bien en septembre 2021, bien évidemment, pour sa grande édition.
Je te le confirme, cher Alain, nous sommes très attachés à La Rochelle. Nous avons surtout besoin de La Rochelle et de la présence du grand public. Donc, dès que possible, dès le mois de décembre, puis au mois d'avril, et évidemment pour une grande édition pleine et entière en septembre 2021.
Eh bien voilà, ça c'est des bonnes nouvelles, mon cher Stéphane. Alors, il y avait un téléfilm aussi que tu étais en train de tourner juste avant le confinement. Tu as fait partie des chanceux, en quelque sorte, puisque tu as eu le temps de terminer ton tournage à Strasbourg juste avant le confinement. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur l'histoire ? Pour quelle chaîne tu as produit ce film ?
Alors écoute, c'est tout à fait inédit ce que je vais raconter là, puisque en tant que président, j'ai rarement l'occasion de pouvoir parler des œuvres que je produis. Écoute, on a rassemblé un casting sur un nouveau film de la collection Disparition inquiétante que je développe et qui pourra rassembler, tiens-toi bien, Alix Poisson, Ryan Bensetti et Charlotte de Turckheim dans une histoire tout à fait troublante.
Ah oui, c'est chouette ça. On a hâte de voir un beau casting.
J'ai grand plaisir à vous la présenter dès que possible pour pouvoir échanger avec le grand public évidemment.
Eh bien, j'espère bien, Stéphane. Et puis, on a vu donc vendredi dernier, c'était la rediffusion de Jusqu'à ce que la mort nous unisse.
Vendredi dernier, c'était la rediffusion de Jusqu'à ce que la mort nous unisse, qui rassemblait Ophélia Kolb, Bruno de Brandt et Bruno Volkovitch dans un polar dessiné dans un décor somptueux, le décor du Mercantour. Et j'espère que le public en a bien profité parce qu'on a besoin d'espace et de liberté.
Et en plus, on peut le revoir sur francetv.fr. Donc si vous l'avez manqué vendredi, eh bien vous pouvez revoir sur francetv.fr ce très beau téléfilm produit par toi. Merci beaucoup Stéphane d'avoir été avec nous et de nous avoir un peu aiguillé évidemment sur l'avenir du Festival de la Fiction Télé. On a bien compris donc un festival sur 3 jours délocalisé à Paris en septembre, mais 2 festivals hors saison pour nous faire patienter en attendant l'édition 2021. Un festival donc hors saison en décembre et un autre en avril. Que de bonnes nouvelles tout ça. Merci à toi.
Merci Alain.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, comme d'habitude, lundi prochain, eh bien, de nombreuses surprises vous attendent, bien évidemment, dans Chute, on écoute la télé. Nous aurons le plaisir, par exemple, eh bien, de recevoir Léa François à l'occasion du retour de la série Plus belle la vie sur France 3, plus plein d'autres surprises, bien évidemment, mais maintenant, vous en avez aussi l'habitude.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Sans oublier nos applications sur iPhone et Android, Chute, on écoute la télé. Sur ce, je vous retrouve demain à partir de 11h15 et 18h15 pour les quotidiennes sur VFM Radio. Pour la grande hebdo, on se retrouve lundi prochain à 18h avec le plein d'invités. Sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée d'écoute de nos programmes. À demain.
Chut, on écoute la télé avec Réal Chocolat, votre artisan chocolatier. Chocolat sous toutes ses formes et pour tous les goûts. Guimauve, nougat, la fameuse pâte de fruits et les nombreux coffrets gourmands à découvrir dans votre boutique à Boé près d'Agen. Zone La Motte Maniaque et sur réal-chocolat.com. Réal Chocolat fait naître la gourmandise. Chut, on écoute la télé avec les pâtes à tartiner fabriquées dans le Sud-Ouest par Lucien Georgelin. Vos points de vente en Lot-et-Garonne sur lucien-georgelin.com.